Et c'est un voyage que l'on vous propose à présent dans votre grand journal d'histoire, votre balade en France qui prend ce soir des airs d'Asie, Marion.
Et oui, sur la route de nos visites estivales. Arrêt aujourd'hui à Haute-Rive, dans la Drôme, au palais du facteur cheval avec ses airs de temple cambodgien. Jean-Luc Boujon nous y emmène pour Europe 1.
Quand on pénètre dans le palais idéal, on entre dans le rêve d'un homme. Un homme simple, facteur le jour, maçon et artiste la nuit, une fois sa tournée achevée. Durant 33 ans, de 1879 à 1912, Ferdinand Cheval a façonné son palais, seul, simplement avec ses mains, et avec les pierres qu'il ramasse consciencieusement durant ses tournées quotidiennes de facteur. C'est d'ailleurs une pierre particulière sur laquelle il trébuche, et qu'on peut voir sur la terrasse, qui déclenche tout, explique Frédéric Legros, le directeur du site.
C'est une pierre un peu orangée. C'est une pierre calcaire qui a été travaillée par l'eau, donc on a plein de strates, de stries, de volutes. Non seulement il se prendra les pieds dedans, mais c'est aussi autour d'elle que vient tout se construire. C'est elle qui lui fait dire que si la nature est capable de ça, très probablement lui peut se lancer également dans l'architecture.
Les pierres sont donc le point de départ, le reste c'est de la maçonnerie et du travail avec de la chaux. C'est ainsi que le facteur sculpte son palais qu'il conçoit comme un voyage à travers le monde, lui qui n'est jamais allé plus loin que Lyon.
Il découvre le monde au travers de magazines illustrés, illustrés de gravures, qu'il vient réinterpréter pour créer le bâtiment. Et avec un foisonnement qui est assez génial et assez extraordinaire. C'est assez fou parce qu'il a autant des inspirations orientalistes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un temple d'Angkor quand ils le voient. Donc il y a ce mélange de cultures.
Un palais qui est un véritable bestiaire plein d'animaux exotiques, lions, éléphants, dromadaires, flamants roses, mais aussi plein de coquillages qui lui étaient envoyés par son neveu qui habitait le sud de la France. Cela donne une construction qui parle aux enfants.
Et il y a beaucoup d'escaliers et un peu des passages secrets en quelque sorte. J'ai vu des animaux, des statues d'hommes, j'ai vu aussi des palmiers.
Nous, on a plutôt l'impression que c'est un château de sable géant qui a les coquillages et tout.
Ce qui est très beau, c'est que il y a plein de détails là sur tous les côtés, là où il y a les petits galets, etc. Enfin, il y a vachement de détails et c'est très beau.
Et parmi les visiteurs, il y a même peut-être un futur facteur cheval, Esteban Setan, venu avec sa grand-mère Maritère.
Je l'ai amené ici parce qu'il collectionne des cailloux. Il ramasse des cailloux, il a trouvé des cailloux avec des coquillages dedans, des inclusions de coquillages, des fossiles. Ça te plaît ?
Oui, c'est les coquillages qu'il y avait sur la mur.
Vous voulez le confirmer dans sa vocation ?
Ah, c'est possible !
Mais visiblement, cela parle aussi aux adultes. Olivier de Courbevoie est lui impressionné par la solidité de la construction.
Ce qui me stupéfie, c'est la durabilité du truc. Parce que c'est un gars qui fait ça dans son coin tout seul et un siècle après, c'est encore là. C'est fou, quoi. C'est un homme hyper sens pratique tout en ayant un gros sens artistique. Puis il a dû quand même affronter le sourire des gens. Hein. On a dû un peu se moquer de lui.
Et c'est vrai, Cheval a dû affronter les sarcasmes, d'autant que son palais est construit en plein milieu du village de Haute-Rive. Mais il avançait avec une foi inébranlable dans son projet et une grande philosophie de la vie, comme en attestent ces dizaines de phrases qu'il a lui-même écrites un peu partout et qui ont beaucoup plu à Christiane.
C'est un humaniste, hein, quelque part. Et moi, j'aime beaucoup le fait de toutes ces niches avec ces différentes habitations qui évoque les religions et justement le vivre ensemble. Voilà, donc c'est des bonnes leçons quand même.
Au final, on a une œuvre inclassable qui a fait l'admiration de beaucoup d'artistes, explique le directeur Frédéric Legros.
André Breton en premier, les surréalistes qui découvrent le palais idéal, ensuite Picasso, ensuite Dali, et va se créer comme ça une attention très forte sur ce génie aussi. Et les artistes sont vraiment admiratifs de cette puissance créatrice à un moment, de cette volonté aussi. Il dit plus opiniâtre que moi ce métalleur, et effectivement, c'est le cas.
Voilà, après avoir vu le palais, vous pourrez aussi aller admirer son tombeau dans le cimetière du village, tombeau qu'il s'était résolu à construire à la fin de sa vie, car il n'avait pas eu le droit d'être enterré dans son édifice. Et oui, il voulait faire comme les pharaons qu'il admirait tant, ce qui, au fond, est un assez bon résumé de ce personnage hors norme. Haute-Rive, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Haute-Rive, où l'on reste avec vous, Rosalie Varda, bonsoir.
Bonjour.
Parce qu'au palais du facteur cheval se tient en ce moment une exposition autour des correspondances entretenues par votre maman Agnès Varda, fascinée hein, elle aussi comme de nombreux artistes on l'entendait par ce site qu'elle a découvert dans les années 50. Qu'est-ce qu'elle en disait ?
Alors elle est allée effectivement visiter le palais du facteur cheval dans les années 50 et elle a fait à l'époque d'ailleurs déjà des photos du palais. Et elle a été fascinée, exactement comme le reportage vient de l'expliquer, c'est-à-dire cet homme modeste, facteur et plus, facteur artiste, Et puis le facteur a toujours cette idée merveilleuse de la transmission du courrier. Et en fait, il n'a pas simplement transmis son courrier, il a aussi transmis cette œuvre. Et elle a toujours eu cet attachement au facteur. Il y a beaucoup de facteurs dans ses films, dans Le Bonheur, dans Visage Village. Le courrier, pour elle, a toujours été quelque chose d'important dans sa vie. Les cartes postales, recevoir, écrire. Donc, quand Frédéric Legros nous a proposé de préparer cette exposition avec Julia Fabry, qui a été la collaboratrice d'Agnès pendant des années, ça nous a semblé tout à fait normal et on s'y retrouverait presque à la maison. Voilà.
Et son goût pour la correspondance, alors, il s'exprimait comment ? Elle écrivait à qui ?
Alors, elle écrivait toujours, elle écrivait à ses amis, elle écrivait, on partait en voyage, on achetait des cartes postales, et elle écrivait les cartes postales, puis des fois on était tellement débordés entre les présentations de films, les interviews, on n'arrivait pas, on n'avait pas le temps de poster les cartes postales, et des fois les cartes postales revenaient à Paris, et elle les envoyait à Paris en disant « je devais vous la poster de Mexico, mais finalement je te la poste de Paris voilà. ». Mais cet amour, si vous voulez, du courrier, le plaisir de recevoir, c'est quelque chose qui faisait vraiment partie de sa vie. Et elle a eu cette chance aussi d'avoir des artistes qui lui écrivaient et qui lui écrivaient des enveloppes magnifiques dessinées comme Alexandre Calder, comme Pierre François, qui était un artiste sétois qu'elle avait connu à Sète. Et puis elle-même collectionnait des cartes postales anciennes. Elle avait une collection extraordinaire d'annonciations. Elle collectionnait aussi les cartes postales, vous savez, de Bonne Année, Joyeuse Pâques, la Saint-Valentin, et elle achetait ses vieux albums et elle les mettait dedans. Donc, si vous voulez, pour moi, le courrier, les cartes postales, les timbres, ça a toujours fait partie de ma vie.
Et c'était l'univers de votre maman, Agnès Varda. C'est ce que vous montrez donc dans cette exposition en ce moment au Palais du Facteur Cheval. Cette figure du postier, comment elle était incarnée justement dans ses œuvres ?
Il y avait dans les films des séquences dans la poste. Et puis Le Bonheur, il tombe amoureux d'une postière. Et puis... Après le décès de Jacques, on avait fait un livre sur Jacques Demy et elle avait eu cette très jolie idée d'écrire des cartes postales à Jacques Demy au cimetière Montparnasse. Elle a vraiment écrit 5 cartes postales à Jacques, qu'elle a vraiment postées. Le cimetière Montparnasse les a reçues et puis nous les a redonnées. Et puis il y a eu une correspondance avec Chris Marker, qui était une correspondance par mail, mais qui était comme une forme de correspondance. Et puis avec Kiki Crèvecoeur, qui est une artiste qui vit à Bruxelles, une plasticienne, illustratrice, avec qui elle a entretenu aussi une correspondance. Et puis des petits dessins, Annette Messager qui lui avait envoyé un dessin. Et puis une correspondance avec Jean Villard au moment du TNP. Donc si vous voulez, tout au long de sa vie, mais même à la fin de sa vie, elle aimait encore recevoir du courrier. Elle dit « Oh, quelle chance, regarde, j'ai reçu une carte postale !» Et je pense que si vous voulez, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous paraît des fois un petit peu, j'allais dire, démodé. Mais moi, je reconnais que quand je reçois une lettre, j'adore ça. Et j'espère que les nouvelles générations vont passer de l'ordinateur aux petits mots écrits. Parce que c'est tellement joli de recevoir une lettre avec un joli timbre. Elle achetait toujours des jolis timbres. Elle allait au musée de la Poste. Elle achetait des belles plaquettes de timbres. Et nous, à Cineta Maris, on a continué cette tradition. Ça veut dire qu'on continue à envoyer du courrier et on continue à mettre des jolis timbres.
La poésie qui se transmet donc et ces cartes postales, ces correspondances à retrouver au Palais du Facteur Cheval à Haute-Rive, dans la Drôme. Agnès Varda, correspondance, c'est jusqu'au 6 septembre prochain. Merci Rosalie Varda de nous en avoir parlé ce soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous.
Merci, au revoir.